Aujourd'hui, je vous raconte le cresson. Je vous lis l'histoire de cresson. C'est une histoire que j'ai écrite dans un de mes livres. Le cresson, pourtant, a une mauvaise réputation. Eh oui. À l'état sauvage, il pourrait être contaminé par un parasite et provoquer la douve du foie. Et pourtant, ce cresson a un bel atout. Un goût particulier, piquant, formidable en garniture de plats, auquel il donne un peps incroyable. Ce cresson de fontaine nécessite beaucoup d'eau et surtout d'eau pure, car il est très sensible. Il capte et se nourrit des propriétés de l'eau. Alors si dans l'eau il y a des mauvaises propriétés, eh bien, il va se nourrir aussi de ces mauvaises propriétés. Le cresson a, j'adore dire ça, le goût du territoire sur lequel il pousse. C'est pourquoi les cressons n'avaient pas les mêmes saveurs, que ce soit à Dunkerque, à Nantes, à Tulle, à Argentat, à Terrasson ou à Cressensac. Enfin, à l'endroit où il pousse, il a toujours cette petite saveur un peu acidulée, mais sinon il a d'autres goûts en fonction de l'endroit où il a poussé. Et à cause de ce risque de la douve du foie, depuis le début du XVIIe siècle, le cresson cultivé en cressonnière a été privilégié plutôt que le cresson qui poussait à l'état sauvage. Aujourd'hui, il est exclusivement élevé en cressonnière avec une eau réglementée et de ce fait, il a un goût uniforme partout. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on veut des goûts uniformes. Il a un goût uniforme dans toutes les régions françaises. Et moi, je n'ai qu'un mot à dire. Quel dommage! Quel dommage. Alors, ce cresson, on va pouvoir le faire en purée. Et on va le faire aussi braiser. En purée, hyper facile. On va le faire tomber. La cuisson du cresson, c'est toujours tomber. Tomber. Et après seulement, on va rajouter de la matière grasse. Et puis, peut-être quelques petites épices. Des petites épices qui vont révéler son parfum. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'accabler avec des épices. D'ailleurs, on ne doit jamais accabler des aliments avec des épices. Les épices sont là pour les mettre en valeur. Alors, un tout petit peu de sel. Je vous rappelle que le cresson, c'est une feuille verte et que comme toutes les feuilles vertes, il ne faut pas trop mettre de sel parce que ça garde le sel en mémoire. Donc, même si vous mettiez une quantité de sel qui vous paraît normale, ce serait un peu trop salé. Donc, mettez-en moins. On va saler, on va poivrer un petit peu. N'oubliez pas qu'il a déjà un petit coup poivré et acidulé. Et on pourrait y mettre, pour le rafraîchir un peu, toujours un peu de citron. Et puis, on pourrait y mettre un petit peu de noix de muscade. Pas trop, juste un petit peu. Un soupçon de noix de muscade. Et voilà, on le laisse cuire comme cela. À côté, on pourrait faire cuire des pommes de terre. Mais il y a un légume, une racine qui va très très bien avec le cresson. C'est le panais. Alors, on va faire cuire les panais. Alors là, c'est pas à peine de le couper. Vous allez l'éplucher. Toujours éplucher deux fois le panais. On le coupe en tronçons. On le fait cuire à la vapeur ou au four. Et après, vous allez enlever la chair, parce que vous savez, le milieu, c'est souvent dur. Et alors, si le milieu est trop dur, vous enlevez la chair qui est tout autour, vous l'écrasez bien à la fourchette et vous allez pouvoir passer au moulin à légumes le panais et le cresson et vous faire une excellente purée que je vous conseille de remettre au four avec un tout petit peu d'huile dessus. Alors, plutôt une huile de noix, c'est pas mal. Sinon, un petit peu de beurre ou un petit peu de crème sur le dessus. Et pourquoi on ne ferait pas gratiner cette purée, mais on ne va pas la faire au fromage. Ce serait dommage de changer le goût mélangé du panais et du cresson avec du fromage par-dessus. Donc, il vaudrait mieux, soit vous faites une sauce au fromage que vous proposez avec, si vous voulez faire gratiner, du pain rassis émietté sur le dessus, ou alors de la biscotte écrasée. C'était ça avant, les gratins.